sur la feuille. On remercie Iska et sa famille de nous permettre de participer à cette Seouda. En deux mots de quoi on va parler ce soir. On va parler donc de trois choses. On va parler d'abord de rouleaux. Ce sont des mégilotes. On va parler ensuite d'un sefer. Et ensuite on parlera des luchot abrit, des tables de la loi. La raison pour laquelle on commence par ces rouleaux, ces mégilotes, c'est qu'il y a un midrash au début du midrash Rabbah sur Shemot qui dit la chose suivante. Le midrash dit « Melamed, on nous enseigne, Shayu biyadam mégilot. Les Bnei Israël en Égypte avaient des rouleaux, des mégilotes. Shayu mishtashim bahem mishabbat le shabbat. Les mégilotes avec lesquels ils jouaient, je vais expliquer tout de suite ce que c'est, ce dont il s'agit, de tous les shabbatot. Moshe Rabbeinu avait négocié avec Paro un jour de congé, en lui expliquant que c'était son intérêt, sinon ses esclaves allaient s'épuiser. Et alors Paro a cédé, et Moshe a fixé évidemment ce jour-là, qui était un jour de chômage donc pour les Bnei Israël, un jour où ils n'allaient donc pas travailler, il a fixé ça le jour du Shabbat. Donc ce Shabbat, toutes les semaines le Shabbat, les Bnei Israël jouait avec ses rouleaux, avec ses mégilotes. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces mégilotes? La Megillah disait Shakadosh Baruch Hu Goalam, Akadosh Baruch Hu allait les libérer. Et puisque ils ne travaillaient pas le Shabbat, Paro leur a dit, quand les Bnei Israël sont allés, enfin par l'entremise de Moshe Rabbeinu, revendiquer la possibilité de partir, d'aller servir Hachem, alors Paro a refusé, bien entendu, et il leur a dit, je voudrais que vous cessiez de croire, de donner de la valeur à l'Ish'ou, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas, demandez aux Bnei Israël, de ne pas prendre appui, justement, sur ces paroles dont Paro disait qu'elles étaient mensongères, ces paroles qui disaient que les Bnei Israël allaient être libérés. Et donc, comme ils ne parvenaient pas, pour une raison que je ne connais pas, a confisqué ses rouleaux, alors il leur a enlevé le moment où ils pouvaient jouer avec ses rouleaux, c'est-à-dire il les a contraints à reprendre le travail, le Shabbat aussi, pour qu'il n'ait pas de temps pour pouvoir jouer avec ses rouleaux. Cette histoire de jouer, évidemment, le Midrash, lui, il construit sur le fait que dans le pasouk, c'est marqué « Al Ish'u »« Shin Ayn » et donc le Midrash double « Shin Ayn »« Sha'ashua » c'est un jeu, c'est jouer avec, ne jouez pas. Mais de quoi il s'agit? C'est comme quand David HaMelech dit « Loulei Toratra Sha'ashua » si je n'avais pas eu ta Torah pour jouer avec elle, alors j'aurais été complètement perdu. On dit aussi dans Kadosh Baruch Hu qu'il joue, le Léviathan, il joue. La notion de jeu n'est donc pas quelque chose de négatif. Mais de quoi est-ce qu'on parle ici de jouer avec des rouleaux, jouer avec des textes? Ce jeu avec les textes, ça veut dire en fait laisser son imagination s'emparer justement de ce qui est dit dans les textes en question. Prendre ce texte pour, aujourd'hui, on dirait en faire un hypertexte. Ce texte qui parlait uniquement de libération. Il parlait de liberté. Alors, on se demande évidemment d'où viennent ces mégilotes. Qui est-ce qui a inventé ces mégilotes? Comment se fait-il qu'elles soient arrivées dans les mains d'Ebn Israël en Mitzrayim? Personne ne sait. Enfin, personne. De tous les endroits que j'ai consultés, personne ne donne de réponse certaine. Rav Kamenetsky, dans le Emet le Yaakov, il dit « Alla bedaati lomar » ça veut dire « j'ai été amené à penser la chose suivante » et il va proposer une solution pour savoir ce qu'étaient ces mégilotes. Sa solution à lui, c'est de dire qu'il y avait dans ces mégilotes, la mégila en question, c'était une mégila dans laquelle il y avait le texte « Mizmor shir le yom ha-shabbat ». Si vous regardez ce « shir shel yom » du Shabbat, vous verrez que curieusement, à part la mention de Shabbat en introduction, il ne parle jamais du Shabbat. Dans « Mizmor shir le yom ha-shabbat », on ne parle pas de Shabbat. Le thème de ce mizmor, c'est qui yachar Hashem. Kadosh Baruch Hu est droit. Et qu'il n'y a jamais eu de, il n'y a jamais d'iniquité, il n'y a jamais d'injustice. A priori, c'est pas la caractéristique du Shabbat. Peut-être que justement, en fait, les Bnei Israël pouvaient en jouer le Shabbat parce qu'ils étaient, comme on l'a dit, libérés du travail qu'ils devaient faire. Je vais revenir ensuite sur ces mégilotes. Le deuxième sujet, ce sera le Sefer, c'est le Sefer Abrit dont on a parlé dans la parasha de cette semaine, le livre de l'Alliance que Moshe Rabbeinu a écrit, et dont Rashi dit que ce livre contenait tout le livre de Bereshit, le début de Shemot jusqu'à Matan Torah, et aussi les halachot, les lois, qui ont été données au Bnei Israël à Mara, c'est-à-dire avant Matan Torah. Parce que Rashi considère que tout cet épisode-là, cette paracha de Mishpatim, etc., tout ça, ça a été donné au Bnei Israël avant Matan Torah. Les autres commentateurs, Ramban et autres, ils ne sont pas d'accord, mais Rashi pense comme ça, que c'est quelque chose qui a précédé Matan Torah. Ça, c'est le Sefer. Ce Sefer, donc, qui raconte l'histoire des Bnei Israël. Et enfin, les louchot, les tables. Là, c'est beaucoup plus connu, tout le monde sait de quoi il s'agit. Ces tables, ce sont justement les tables sur lesquelles HaKadosh Baruch Hu a gravé les Aseret HaDibrot, les 10 paroles. Ces 10 paroles qui, d'une certaine façon, sont un résumé de toute la Torah. Vous savez, par exemple, que Rav Saadia Gaon a écrit un article, si on peut parler comme ça, pour expliquer comment toutes les mitzvot dérivent des Aseret HaDibrot. Le minhag Sfarad, c'est de lire à Shavuot l'après-midi, justement, ce travail de Rav Saadia Gaon, où il montre comment toutes les mitzvot proviennent de Aseret HaDibrot. Ce qui nous frappe, c'est que ces trois éléments, les rouleaux, le livre et les luchot, les tables, une Megillah, c'est un rouleau. Le mot Megillah ne dit rien du contenu du rouleau. On a l'habitude, la Megillah, il y a la Megillah d'Esther, la Megillah de Ruth, la Megillah de Kohelet, la Megillah de Shirashirim, Echa, qui ont des contenus complètement différents. Donc, dans Megillah, l'essentiel, c'est la notion de forme. Ça a la forme d'un rouleau. Cette Megillah, cette forme, elle correspond donc à l'idée donc qui est dont on tout ce qu'on en sait, c'est ce que nous en dit le Midrash, c'est l'idée de la liberté. Mais aussi cette Megillah, les Bnei Israël qui jouaient avec cette Megillah le Shabbat, jouaient avec un texte, jouaient à tirer de ce texte tout ce qu'on peut tirer. Avec tous les moyens que nous connaissons, c'est un travail fait dans la Torah chez Baal Peh, dans la Torah orale. Où effectivement, dans la Torah chez Baal Peh, il y a tout un travail d'imagination, un travail de regarder le texte de très près, d'être attentif à toutes les nuances, à tout ce que le texte dit et aussi à ce qu'il ne dit pas. Par exemple, la Megillat Esther, c'est un support, mais on sait dans Maseret Megillah qu'on travaille le contenu de cette Megillah exactement comme si on avait des psukim de Torah, alors que ce sont des paroles humaines. C'est Esther et Mordechai qui ont rédigé Megillat Esther. Ils étaient effectivement inspirés, si vous voulez. Mais on travaille sur ces paroles humaines exactement comme on travaille sur les paroles de la Torah. Ensuite, on a vu que c'est lié au Shabbat. À ce moment-là, le Shabbat qu'ils ont obtenu, c'est simplement un jour où on ne travaille pas. C'est ça que Moshe Rabbeinu a obtenu. Donc on a la liberté comme un premier pas, cette liberté inscrite dans les rouleaux, mais avec laquelle ils jouent. C'est la liberté par rapport au travail asservissant. Le travail, dans la Torah, sa première occurrence, c'est la sanction de la faute d'Adam Harishon. Mais le travail dont on parle à ce moment-là, c'est un travail pour avoir à manger. C'est-à-dire, maintenant, la terre ne te donnera pas à manger sans effort. Le travail que les Bnei Israël étaient contraints de faire en Égypte, c'est un travail asservissant. On voit dans la Gemara, dans Chazal, dans les Midrashim, on voit très bien qu'il y avait des choses qui étaient quasiment très proches de Sisyphe. C'est vraiment, ils construisaient au fur et à mesure qu'on la construisait, se détruisait. Donc ça servait à rien du tout. On voit très bien que le travail qui était fait par les Bnei Israël, qui étaient demandés par les Égyptiens, n'était pas du tout un travail dont ils voulaient avoir un résultat, puisqu'on a justement donné du travail, un travail aux faibles, un travail qui convenait aux forts un travail qui convenait aux faibles, aux hommes le travail des femmes, aux femmes le travail des hommes. On a fait tout le contraire de ce qu'on fait normalement quand on veut être efficace, lorsqu'on veut que ce travail produise quelque chose. Donc c'est un travail totalement et uniquement, essentiellement asservissant. D'où viennent ces Megillot? Donc, je vous ai dit, même Rav Kamenetsky ici, Rav Shach aussi, il utilise un Midrash, mais j'ai l'impression que ce Midrash, il a un peu dévié. On va entrer maintenant dans le détail. Personne ne sait d'où viennent ces Megillot. J'ai l'impression ces Megillot, elles viennent d'une certaine manière de nulle part. Là, ça fait penser à la chose suivante. Le soir du Seder, on mange le karpas. Le karpas, c'est un apéritif, c'est une mise en appétit pour la liberté. Ça vient de nulle part. D'où vient cette mise en appétit pour la liberté? Pourquoi a-t-il fallu que les Bnei Israël soient mis en appétit pour la liberté? Comment est-ce que ça s'est fait en réalité? Si on regarde d'où c'est venu exactement, c'est venu du tour de vis que Paro a imposé aux Bnei Israël. Les Bnei Israël avaient un certain travail à faire et quand Moshe Rabbeinu est intervenu, ça s'est aggravé, comme Moshe Rabbeinu l'a reproché à Kadosh Baruch Hu. Il y a un tour de vis, c'est-à-dire maintenant on vous fournira même pas la paille pour fabriquer vos briques. Vous irez la chercher vous-même. Ce tour de vis qui est donc entraîné par l'intervention de Moshe Rabbeinu. Cette intervention de Moshe Rabbeinu, c'est Hachem qui l'a provoqué. Donc ce tour de vis, ultimement, il a été provoqué par Hachem. Donc la mise en appétit pour la liberté. Cette mise en appétit elle-même, elle l'est aussi causée, si vous voulez, par Hachem, si on peut parler comme ça. Donc quand je dis que ça vient de nulle part, c'est-à-dire que Hachem a fait en sorte, voilà, qu'ils aient ces rouleaux, c'est-à-dire que dans l'état d'esclavage qui était le leur, il y ait quelque chose qui parle de la liberté et qu'ils jouent avec cette idée de liberté. Il faut imaginer, enfin se représenter, que ces gens qui parlent de liberté, ils sont esclaves de père en fils depuis assez longtemps. Donc, ils ne savent pas du tout de quoi on parle. Ils ne savent pas ce que c'est que la liberté. Ils ne se souviennent évidemment pas de la liberté des avotes, de Yosef ou des... Pas du tout, d'accord? Ils n'en sont pas. Donc, vraiment, c'est de l'imagination. Il faut donc... On ne sait pas ce qu'ils s'imaginaient qu'était la liberté. Mais en tout cas, c'est tout un travail. Ils ont travaillé tous les Shabbatot. Ils avaient du temps. Ils ont travaillé. Tout ce qu'on peut faire à partir de cette Megillah, dont tout ce que nous en savons, c'est qu'elle contenait l'idée de liberté. C'est-à-dire qu'Hachem allait les libérer. C'est un peu plus que la liberté, c'est que c'est la liberté qui viendra d'Hachem, c'est-à-dire que cette liberté, elle ne viendra pas. Quand on dit que la liberté vient d'Hachem, il faut penser à ce qu'on dit dans la Megillah, ce qu'on dit dans la Haggadah de Pessah, Lo al yedei malach, sarav, shliach, etc. Et là, Kadosh Baruch Hu bichvodo batzmo. Ça veut dire que la liberté, elle viendra d'aucune des manières qu'on connaît. Ça viendra ni par la révolution, ni par la libération des esclaves, ça viendra ni par une révolution de palais, ni par une dynastie, ni par la guerre, rien. Tout ce qu'on peut imaginer, c'est non. Alors c'est ça qu'on dit dans la Haggadah de Pessah. Ça va arriver, mais on ne peut pas du tout dire par quoi et comment ça va arriver. C'est pas simplement que on ne sait pas, c'est que on n'a aucune idée. Et la vérité, c'est que même après que nous soyons sortis de Mitzrayim, nous n'avons aucune idée de la façon dont nous sommes sortis. Personne ne peut expliquer comment nous sommes sortis. Un jour, on était en Mitzrayim, et puis le lendemain, on n'était plus en Mitzrayim. Comment on a fait pour sortir, personne ne vous l'expliquera pas. Vous l'expliquera. On n'en sait rien. C'est ça qu'on appelle Akadosh Baruch Hu bichvodo ou batzmo. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous a fait sortir. Donc cette mise en appétit pour la liberté, elle est le fait d'Hachem. C'est-à-dire qu'il fallait leur souffler l'idée de liberté. Quand on est esclave de cette manière-là, la liberté ne fait pas partie des choses auxquelles on pense. Ça ne voulait rien dire du tout. Akadosh Baruch Hu leur a donc permis de penser la liberté en leur donnant un jour de non-travail, un jour de non-aliénation. Donc pour pouvoir penser, il ne faut pas être aliéné. Le deuxième point, c'est le Sefer. La racine du mot Sefer, c'est cette notion qu'on retrouve dans le Sipur, dans le Sipur Yetziat Mitzrayim par exemple. C'est aussi un conte avec N et aussi un conte avec M. C'est en fait si on dit que les rouleaux, c'était une forme, dans le Sefer, peu importe la forme, dans le Sefer, ce qui est important, c'est le fond. Et qu'est-ce que c'est que le fond? Ce Sefer, je suis Rashi, là. Il y a d'autres explications, mais je suis la lecture de Rashi. Ce qu'il y a dans ce Sefer, c'est l'histoire fondatrice du clan d'Israël. Quand on lit Rashi, Rashi dit qu'il y a tout le Sefer Bereshit, il y a tout le début du Sefer Shemot, ça fait tilt, on entend de quoi on parle ici. On parle de ce dont on a dit dans le premier Rashi, quand on a dit la Torah, elle aurait dû commencer à Chodesh Hazelachem, d'accord, quelque part au début du Sefer Shemot, mais pas au tout début. Et puis, pourquoi est-ce que on a toute, pourquoi la Torah commence pas là, mais comment elle a, pourquoi la Torah a commencé à Bereshit, et on a tout le Sefer Bereshit, tout le début du Sefer Shemot. Et on a répondu, Rashi ramène, ce Midrash, Koach Maasa Vigid Leamo. Akadosh Baruch Hu a raconté, Haggadah, Higid. Higid, ça veut dire raconter au sens où on fait vivre la chose à la personne. C'est pas simplement un récit intérieur, c'est un récit qui a pour but de faire vivre la chose. C'est pour ça que l'Haggadah de Pessah, c'est un récit qui a pour but de nous faire vivre les choses, et c'est pourquoi on nous dit que Chayav Adam Lirot et Atzmo Keilu Hu Yatsa Mimitzrayim, que l'homme doit voir, il doit se considérer comme s'il était sorti lui-même d'Égypte, et comme dans le Nusar Sfarad, d'après le Rambam, c'est pas seulement, il faut se considérer comme, mais chayav leharot et atzmo. Il faut se manifester comme tel. D'où les minagim de faire raconter aux enfants avec, je sais pas, un baluchon, voilà, ainsi nous sommes sortis de Mitzrayim, etc. Ça vient du Rambam. Ça vient de l'obligation leharot et atzmo, se manifester comme sortant d'Égypte. C'est ça dans le Lusach Ashkenaz, c'est seulement l'irot d'Asmo, c'est seulement, semble-t-il, se considérer comme, pas obligatoirement la nécessité de le manifester autrement que par ce qui est dit dans la Haggadah. Ça veut dire qu'en réalité, ce Sefer, il contient justement cette histoire fondatrice, ce Koach Maasav. J'avais raconté déjà dans un précédent Melavé Malka, que Koach Maasav, à mon avis, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a dévoilé au Bnei Israël les potentialités de l'histoire ultérieure. C'est-à-dire ce qui va donner du sens, qui va permettre de comprendre de quoi il s'agit dans l'histoire des Bnei Israël qui sortent d'Égypte et qui reçoivent la Torah. Tout ça, on ne peut le comprendre que si on a le récit des Avot, qu'on a le récit de la création, etc. Tout ça, ce sont des nécessités pour pouvoir donner du sens à ce qui nous arrive, encore aujourd'hui d'ailleurs. Par conséquent, le Sefer, c'est le fond. Il n'y a que le fond qui compte, la forme n'a pas d'importance. Un Sefer Torah, c'est un rouleau. D'accord ? Et un Sefer, c'est peut-être un livre aujourd'hui. Un incunable, enfin, peu importe comment il est, mais sa forme n'a pas d'importance, c'est son fond. Donc on a les rouleaux qui concernent la forme, ensuite, et la forme c'est la liberté, ensuite on a le Sefer qui concerne le fond, et le fond c'est notre histoire, l'histoire fondatrice du clan d'Israël, c'est les potentialités, ce qui permet de comprendre ce qui va se jouer par la suite. Dans la racine du Sefer, il y a aussi Sfar qui est la limite. Pour être vraiment libre, il faut aussi connaître son origine, son histoire, et aussi ses limites. Bon, ça veut dire qu'il y a des limites qui nous sont données par ce que nous savons à partir du Sefer Bereshit, à savoir... Il y avait aussi encore un petit peu la notion de limite au sens de quelques lois. Les lois qu'on a reçues à Mara, c'était comme, vous savez, on a reçu Amara, de Shabbat, de Kibud Av Va'em, de Para Aduma, et des dinim généraux. Dans le texte de la Torah, autour de ce Sefer, justement, le Pasuk dit, Vayavo Moshe, Vaisaper, Moshe Rabbeinu est venu, il a raconté au Bnei Israël. Il a raconté toute l'histoire, puis ensuite les Mishpatim, et le peuple a répondu, Naase. Le peuple a répondu, ok, on va faire ce que tu dis qu'on a à faire, d'après ce qu'Hachem t'a dit, les Mishpatim. Le Netziv, dans Amek Davar, il dit que toute la paracha de Mishpatim était dite à Moshe Rabbeinu comme Rashi, il pense qu'elle était avant le Sinaï. Et il y a une Mechilta, c'est-à-dire c'est un Midrash Halakha, qui dit que Moshe Rabbeinu a raconté toutes les parachiotes qui vont mener aux brachot et aux klalot. Mais là, Mishpatim, ce ne sont pas tous les Mishpatim. Il dit, ce sont les chakirot de la Torah Shebaalpeh. Et Moshe Rabbeinu a lu devant eux les parchiot écrites et aussi tous les dinim sur ces parchiot sans lesquels on ne peut pas faire le Dvar Hashem. On ne peut pas faire la parole d'Hashem si on ne connaît pas ce qui est à faire. Il faut bien nous dire des dinim. Dans la Torah, il n'y a pas que des dinim et souvent ce n'est pas élaboré sous forme de dinim. Il faut bien nous dire quelles sont les lois qu'il faut mettre en œuvre. Et ça, ça a été dit au Bnei Israël avant Matan Torah. Ici, le Netziv a l'air d'être du même avis que Rav Shimshon Hirsch, et il a l'air de s'opposer à ce que dit le Malbim, par exemple. Rashi dit qu'il y avait les sept mitzvot des Bnei Noach, en plus de ce que je vous ai énuméré des mitzvot de Mara. Donc tout ça, Moshe Rabbi nous l'a raconté au Bnei Israël. Et puis ensuite on nous dit, Vaikach Moshe, Moshe Rabbi nous a pris ce Sefer Habrit, ce livre de l'Alliance, et il l'a lu aux oreilles des Bnei Israël, Beoznei Bnei Israël, dans les oreilles des Bnei Israël. Et à ce moment-là, ils ont répondu, Naase Vinishma, ils ont répondu, nous ferons et nous entendrons. Et bon, tout le monde sait qu'il y a eu sur Naaseh V'Nishma, je pense, des centaines de pages qui ont été écrites. Le Netziv propose la chose suivante. Il dit, pourquoi est-ce qu'on répète? Et pourquoi dans la première fois qu'ils ont dit Naaseh, c'était différent de la deuxième? Une fois c'est marqué Vayomer, une fois c'est marqué Vayan, une fois c'est Vayomer, le peuple a répondu, a dit. Et l'autre fois, c'est marqué « Vayan Ha'am », le peuple a répondu. Alors, en fait, il explique comme ça. Dire « Naase » avant « Nishma », on va faire avant d'entendre, ça implique deux choses. Ça implique, premièrement, que Akadosh Baruch Hu, dit le Netziv, exige qu'on s'occupe de Torah et de Avoda. « Naase », ce qui est à faire. Mais vous remarquerez que, on a l'habitude, qu'il y a toujours le triplet, Torah, Avoda, et aussi Gmilut Chassadim. La générosité, s'occuper des autres, etc. Et dans cette partie-là, on ne parle pas de Gmilut Chassadim. Il y a le Netziv qui a l'air un peu optimiste, peut-être là-dessus. Il dit, ça, on n'a pas besoin d'en parler, parce que c'est naturel, à la fois chez les Bnei Israël, même parmi les Oumot HaOlam, tout le monde sait bien que le monde repose sur le Chesed. C'est pour ça que les Bnei Israël ont répondu, quand il s'agissait de tout le monde, il y a tout le monde répondu, Naaseh, on va faire la Torah que tu nous demandes de faire, et la Avoda que tu nous demandes de faire. La Torah et la Avoda, étudier la Torah et faire la Tfila, ou avant peut-être faire des Korbanot, etc. Ça, c'était quelque chose de spécifiquement juif, en fait. Alors là, tu nous demandes quelque chose qu'on n'aurait pas fait si tu ne nous le demandais pas. Ok, Naaseh, on va faire ce que tu dis. La deuxième partie d'Inenetziv, elle concerne ce qu'il appelle les Gdolé Israël, les grands dans le clan d'Israël. Hachem exige aussi Gmilut Chassadim, Mais l'exigence n'est pas sur le fait de pratiquer Gmilut Chassadim, parce que ça, il vient de dire que c'est naturel, mais l'exigence est que cette pratique de Gmilut Chassadim, c'est-à-dire ce souci de l'autre, soit fait le Shem Shamaim, et non pas parce que c'est naturel, ou non pas parce que c'est logique, et on le comprend. Et c'est pourquoi Moshe Rabbeinu alors prend le Sefer Abrit, il prend ce Sefer dans lequel il y a, ce que je vous ai dit, toute l'histoire de tout le Sefer Bereshit, le début de Shemot, et aussi les mitzvot de Mara et le Sheva Mitzvot de Bnei Noach. C'est-à-dire, il leur raconte l'histoire des Avot, il leur a expliqué tout ça, ce que ça impliquait. C'est ça le Shem Shamaim, c'est-à-dire, eux, les Avot, on a appris ce que c'est que faire des choses pour Hachem. Et pas parce que elles nous paraissent logiques, parce que un jour ou l'autre, ça peut changer, mais on le fait parce que c'est la volonté d'Hachem. C'est bien entré dans leurs oreilles, c'est pour ça que le texte précise les oreilles. Et eux, ces Gdolim, là, ces grands, ils ont dit Naase, c'est-à-dire on va faire la Torah et la Avoda, mais aussi Nishma, c'était pas l'action ici, c'est Gmilut Chassadim, comment Shem Shamaim. On a bien entendu que tu voulais que les choses soient faites de cette manière-là, de façon que les choses ne dépendent pas de l'humeur ou de la mode, etc., ou de la façon qu'on a de penser à tel et tel endroit ou dans tel et tel siècle, mais parce que c'est un ordre, c'est la volonté d'Hachem. Les Luchot, le troisième terme, dans les Luchot, on a le fond et la forme ensemble. Pourquoi ? Parce que le fond, c'est-à-dire l'écriture, est une écriture, comme vous savez, qui est de part en part. C'est-à-dire, c'est écrit de telle sorte qu'on ne peut pas séparer le support de l'écriture. Une partie de l'écriture tient uniquement Benes. Écrire un Samer, quand c'est de part en part, ça veut dire que la rondelle du milieu, là, du Samer, elle tient par miracle. Donc, toute cette écriture est une écriture en quelque sorte, miraculeuse. Qu'est-ce qui est écrit ? Évidemment, c'est la Torah chez Birtav. Mais cette Torah chez Birtav, telle qu'on l'a expliquée maintenant, c'est plutôt un sédiment de la Torah chez Baalpé. Ça n'est pas que la Torah chez Baalpé est un développement de la Torah chez Birtav, de la Torah écrite. Ici, tout est en creux, ou plus exactement en vide. D'accord, c'est vide. Les lettres sont, en quelque sorte, ici ce serait le noir qui donne sa forme, sa limite au vide. On aurait, contrairement à ce qu'on dit du Sefer Torah, on aurait un feu blanc, c'est-à-dire le vide en l'occurrence, sur feu noir. Alors que dans le Sefer Torah, on a un feu noir sur un feu blanc. Dans la Sefer Torah, une lettre qui serait écrite sans qu'elle soit entourée complètement de blanc ne serait pas cachère. Supposez que vous avez une lettre qui est écrite tout en bas du parchemin. Donc il n'y a pas de blanc qui entoure. Le noir arrive jusqu'à la limite. Sefer Torah n'est pas cachère. D'accord ? Le noir doit être entouré par du blanc. Et ici, c'est le contraire. Le vide, évidemment, il n'y aurait rien du tout. Il prend son sens, les lettres prennent leur sens parce que elles sont entourées par du non-vide, évidemment. Quand Hachem a gravé les louchotes de part en part, il a fabriqué du vide, si vous voulez, sur certaines formes, mais les formes sont données par ce qui est à l'extérieur. C'est-à-dire que la forme, elle émerge du fond. C'est la lettre qui va donner la forme. L'idée est au fond, dans le fond, dans les potentialités. Donc les louchotes, elles permettent à la liberté d'émerger des potentialités. Le manque de liberté empêche les potentialités de s'actualiser. Mais la liberté, elle va émerger, elle va sortir des potentialités, de cette histoire en quelque sorte, la vraie liberté, celle dont on va parler en disant que « en cherut ela charut ala luchot », c'est-à-dire il n'y a de liberté que ce qui est gravé dans, sur les tables. La gravure, c'est l'écriture la moins libre qui soit. C'est pas quand vous écrivez, vous pouvez effacer. Quand vous gravez, mais c'est pas part en part, vous pouvez trancher le support et éliminer toute la partie écrite, il vous restera un support moins épais, mais il restera quelque chose. Quand c'est part en part, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez rien faire. La lettre est dans, elle fait corps avec le support. Donc c'est aussi peu libre qu'on peut imaginer. Alors qu'est-ce que c'est que ce paradoxe de dire il n'y a de liberté que dans ce qui est écrit, gravé sur les luchot? C'est un paradoxe. Et justement, ce qu'on veut dire ici, c'est que dans les luchot, la liberté, elle va émerger. D'où est-ce qu'elle va émerger, cette liberté? Elle va émerger de ses potentialités, elle va émerger de cette histoire fondatrice du Klal Israël, de ce qu'il y a dans le Sefer, que les Bnei Israël ont accepté avant d'accepter la Torah. Ils ont accepté, en quelque sorte, de vivre avec une dose d'imagination. Ils ont développé, avant de recevoir la Torah, en Égypte encore, ils ont développé ce qui va être nécessaire au travail de Torah chez Baal Peh. Je vais juste donner un petit exemple. Dans la Gemara, on dit que quand il arrive quelque chose à quelqu'un, il doit s'interroger pour essayer de savoir qu'est-ce que me dit ce message. Donc il faudrait essayer de trouver un lien qui permette, à partir de ce qui arrive, de découvrir le pourquoi cela m'arrive. Et la Gemara dit, mais qu'est-ce qu'on fait si on a bien cherché, mais on n'a pas trouvé? Tu n'as pas trouvé de lien. Il est arrivé à quelqu'un une tuile, il n'arrive pas à savoir pourquoi il reçoit cette tuile. Alors la Gemara, elle dit, Yitle bebitul Torah. La Gemara, elle dit, il faut le faire dépendre, il faut dire que ça vient de bitul Torah. Bitul Torah, ça veut dire qu'on a négligé l'étude de la Torah. On n'a pas assez étudié la Torah. La plupart des gens entendent dans cette Gemara une forme de reproche, c'est-à-dire au sens de, tu es puni. Pourquoi il t'arrive cette tuile? Ben, parce que tu n'as pas étudié suffisamment. Et le Gaon de Vilna dit que ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout que la tuile arrive parce que tu n'as pas étudié suffisamment. Ce qui arrive parce que tu n'as pas étudié suffisamment, c'est que tu ne trouves pas la cause. Si tu avais plus étudié plus profondément, plus sérieusement, alors avec ce qui t'arrive, avec tout ce que tu aurais développé dans ton étude de la Torah, d'imagination ou de causalité, des fois la Gemara, elle ouvre des horizons totalement imprévus. Si tu avais plus étudié, tu aurais trouvé le lien entre ce qui t'arrive et le pourquoi ça t'arrive. C'est ça, dit le Gaon. C'est pas du tout une sanction. C'est pas une sanction pour eux, parce que tu n'as pas suffisamment étudié. Donc là, on voit très bien, une nouvelle fois, cette nécessité, si vous voulez, d'étudier, et que pour étudier sérieusement, il faut développer aussi ses capacités d'imagination. Il faut donc se mettre dans une situation de non-aliénation. D'accord ? On a pu jouer avec ça, on a pu développer ces capacités-là, en étant esclave, parce qu'il y avait un jour, le Shabbat, de non-aliénation. Et c'est ça, le Shabbat était à ce moment-là uniquement un chômage. Aujourd'hui, pour nous, le Shabbat, il a une dimension supplémentaire. C'est sûr que c'est un jour où on ne travaille pas. Mais on a donné d'autres définitions du travail. Et puis on a dit que ce Shabbat, c'était Me'en Olam Haba. C'est-à-dire on a donné un sens. C'est pas seulement qu'on ne travaille pas. Et par conséquent, on peut étudier. C'est fondamental. C'est vrai. Mais ça veut aussi dire qu'on est en train de construire quelque chose. Ce Shabbat, on construit quelque chose. On construit Olam Haba. On construit le monde à venir. On peut dire, on construit quelque chose qui est évidemment extrêmement difficile à penser. On ne sait pas comment le penser. On ne sait pas ce que c'est que Olam Haba. Personne ne sait. Ce qu'on en sait, on ne sait pas, mais on sait que Akadosh Baruch Hu nous a dit, vous pouvez avoir une idée du Olam Haba en faisant Shabbat. C'est-à-dire, c'est nous-mêmes qui allons fabriquer cette idée du Olam Haba. Comment? Le Olam Haba, il a deux caractéristiques. C'est le monde de la jouissance. D'accord? C'est un monde dans lequel on ne travaille pas, on ne peut plus rien faire. C'est le monde où on reçoit le salaire, la jouissance du travail qui a été fourni dans ce monde-ci, dans Olam Hazé. Et donc, il faut qu'il y ait dans Shabbat cette dimension de Oneg Shabbat, de jouissance du Shabbat, c'est-à-dire il faut fabriquer le Shabbat de telle sorte que ce soit le jour où on concentre toutes les jouissances possibles. Et puis en même temps, c'est un jour où on ne travaille pas, c'est-à-dire où on ne peut plus changer les choses, donc il faut aussi fabriquer un jour dans lequel on ne fait rien, on ne construit rien de ce monde-ci. Comment savoir qu'est-ce qui s'appelle construire? Alors ça, nos maîtres nous ont enseigné qu'on allait prendre exemple, par exemple, sur la fabrication du pain, qui est une chose de nécessaire, ou bien sur les travaux qui étaient nécessaires pour la construction du Mishkan, construction du Beit HaMikdash, si vous voulez. Mais ces travaux-là, puisque le Mikdash, nous considérons que le Mikdash, c'est un monde en petit. Donc construire le Mikdash, c'est construire le monde. Et donc les travaux qui sont nécessaires pour construire le Mikdash sont les travaux que nous considérons comme construisant le monde. Et c'est de ces travaux-là qu'on s'abstient le jour du Shabbat. En donnant ce nouveau sens, si vous voulez, au Shabbat, sens qui vient s'ajouter au fait qu'on ne travaille pas et qu'on est donc libre pour réfléchir, on dit voilà dans quel sens il faut réfléchir. Voilà comment tu vas te mettre dans les situations les plus intéressantes pour pouvoir réfléchir à ce qui compte réellement, c'est-à-dire à ta proximité avec Hachem. On a donc, dans ces trois termes dont on a parlé ce soir, une progression de la forme, du fond, et puis ensuite la forme et le fond réunis dans les Loukhot. La liberté comme premier pas, c'est-à-dire la première chose. Première nécessité, c'est d'être libre. Si on n'est pas libre et qu'on est dépendant de quelqu'un d'autre, alors on ne peut pas être Eved Hashem. Quand les Bnei Israël se sont demandés, quand Mordechai et Esther se sont demandés comment est-ce qu'on allait fêter Pourim, ils se sont évidemment interrogés sur est-ce qu'on ne devrait pas chanter le Hallel le jour de Pourim. Ils sont arrivés à la conclusion qu'on ne pouvait pas instaurer à Pourim de chanter le Hallel. Pourquoi? Parce que les premiers mots du Hallel disent Hallelu Avdei Hashem. Louer Hashem, serviteur d'Hashem. Esclave d'Hashem, si vous voulez. Travailleur pour Hashem. Et ils ont dit, nous, on ne peut pas dire qu'on est des travailleurs pour Hashem. On est encore Akate Avde Achashverosh Anan. Nous sommes encore soumis à Achashverosh. Nous avons un empereur et nous sommes soumis à cet empereur. C'est vrai que le grand vizir c'est Mordechai, c'est vrai que la haine c'est Esther, mais on est encore sous la domination d'Achashverosh. Et on ne peut pas dire qu'on sert Hachem si on a au-dessus de nous un bonhomme comme Achashverosh. Donc il faut impérativement une vraie liberté. Alors, la liberté, Il faut se la donner. La liberté, pour savoir ce que c'est que la liberté, il faut travailler. Ils ont reçu des mégilotes sur lesquels on parlait de liberté. Mais ils n'ont compris, ils ont dû le travailler, ils ont joué avec cette notion de liberté. Il faut la... Nous ne savons pas ce que c'est être complètement libre. D'accord. Aujourd'hui, on dit, nous disons que nous sommes libres. Mais être vraiment libre, c'est un travail sans fin. On n'est pas vraiment libre. On a franchi un seuil à partir duquel on se considère comme Bnei Chorin, comme libre. Mais on n'est pas vraiment Bnei Chorin. L'année prochaine, ce qu'on avait dit, on a dit ça pour bientôt. L'année dernière, on a dit que cette année-là, à Pessah, on sera libre. Il reste encore un peu de travail. Merci. Thank you.